C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regard intime.
Bonsoir à tous, bienvenue pour ce regard intime 9e du nom. Aujourd'hui, nous sommes au studio de Transistor avec Julie Rossello-Rochet qui est notre invitée. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors tout d'abord, je vais te présenter pour nos auditeurs. Même si nos auditeurs ont déjà eu un petit écho de toi, puisque dans le JRA qui datait du 6 janvier dernier, j'avais évoqué ta nouvelle parution, Cross Chant des Collèges, dont on va parler aujourd'hui. Alors tu as écrit une dizaine de textes, comme tu dis, pour Humains et Marionnettes. Donc certains ont été mis en onde sur France Culture, mis en espace ou en scène donc par des réalisateurs ou des metteurs en scène tels que Élie Recoing, Jacques Taroni, Blandine Masson, Michel Didim, Sacha Todorov, Lucie Rebéré ou Julie Guichard. Tu as été aussi dramaturge sur les spectacles de Mathieu Berthollet en Suisse romande. Mathieu Berthollet qui dirige actuellement le Poche à Genève. Et tu as aussi collaboré au journal Mouvement et tu participes à la revue Le Bruit du Monde, fondée par Pauline Perrade, que nous avions reçue l'année dernière pour notre regard intime numéro 2. Dernièrement, à Lyon, tu as fondé avec Lucie Rébéré la compagnie La Maison, dont tu nous parleras également. Et donc, actuellement, tu accompagnes des étudiants dans des écoles supérieures d'art de la scène, donc l'ENSAT à Lyon, la Manufacture, l'Académie de théâtre de Shanghai, et tu donnes des ateliers d'écriture. Et tu poursuis actuellement une recherche doctorale, dont tu nous parleras aussi, sur les œuvres et les idées politiques de femmes de théâtre du 19e siècle. Et tu es aussi poète sous un pseudonyme que nous cacherons pour nos auditeurs qui iront voir tes écrits. Alors pour avant de commencer l'entretien, on va rapidement donc revenir sur les événements de ces derniers mois qui font ton actualité, comme on pourrait dire. Donc d'abord le livre Cross Chant des Collèges qui est paru aux éditions théâtrales en janvier dernier et pour lequel tu as remporté le prix du domaine français des journées de Lyon des auteurs de théâtre. Également, en ce moment même, le festival En Acte, où tu as écrit un texte qui s'appelle Pardieu, Chant de Gare, et qui est créé par Julie Guichard au Théâtre de l'Élysée. Et également, ta pièce, donc Cross Chant des Collèges, connaît une version scénique qui se joue depuis l'année dernière. Cross ou la fureur de vivre, qui est mis en scène par Lucie Rebéré et qui sera prochainement au Théâtre La Mouche de Saint-Genis-Laval le mercredi 11 avril et à l'espace Albert Camus de Bron le jeudi 13 avril. Donc vous aurez toutes ces informations en lien avec l'émission. Alors après vous avoir assommé, chers auditeurs, de toutes ces informations, on va écouter Julie nous lire un petit extrait, puisqu'elle est parmi nous, de Cross Chant des Collèges, pour que vous puissiez vous familiariser, tout du moins entendre un peu cette écriture si particulière avant de l'entendre commentée par l'auteur. À toi, Julie.
Alors, je lis un extrait qui correspond au début du texte de Cross Chant des Collèges. Lundi, marché. Elle est là, ni moche, ni belle, avec les yeux et le sourire immense lorsqu'elle dit « Au revoir, bonne journée !» qu'elle enfile son manteau, qu'elle saisit sa sacoche, qu'elle ouvre la porte et qu'elle regarde le ciel. Elle part. Elle avance. Elle déplie ses jambes fines. Elle s'y prend d'un long pas en longueur, d'un pas sûr. Blake s'enfonce dans le jour, elle fend l'air, certaine d'être une mouette et un cerf à la fois, légère et délestée de tout poids en entrant ce matin, elle marche rue de la gare. Elle n'a d'autre raison d'exister que sa propre existence. Son champ panoramique est immense et elle voit le marché sur la place, les légumes et les fruits, et les cabas troués des mamies qui patientent. Elle voit la femme au manteau bleu qui entre chez Joyce, le coiffeur. Elle voit un chien s'accroupir dans les égouts pour faire une crotte et puis la banque, alors elle tourne. Elle redresse son torse. Elle progresse rue Colette et aperçoit l'attroupement des élèves qui se pressent. Elle sait que bientôt c'est une nouvelle journée qui va se jouer et que l'attend derrière la pente, près du panneau de stationnement, les jambes croisées, son amie Lika. Elle grimpe. Elle accélère un peu mais sans courir. Garde toujours le torse bombé. Place une mèche derrière l'oreille, écarte sa queue de cheval et là, personne. Lika n'est pas là. Et le choc est immense. Et la cloche retentit, il va falloir rentrer seule. Et c'est quoi déjà à 8 heures? Et c'est mathématique. Alors elle s'engouffre et parcourt la foule de ses yeux, mais elle ne la voit pas. 8 heures, mathématique. Les équations apparaissent sur le tableau Velleda et Blake porte son stylo à sa bouche, le mâchouille et essaye de comprendre. Si le ciel est clair, que Lika a confirmé sa présence par SMS, qu'elle a répondu présente lors de leur dernier appel, pourquoi Lika n'était-elle pas près du panneau de stationnement? Puis aussitôt la professeure claque des doigts. Blake, tu es avec nous là? Alors Blake replonge la tête dans les équations, mais tout à coup, un minuscule papier plié en 1000 morceaux sur le bureau atterrit. Elle le déplie. Elle le déplie. Elle le déplie. « Salut, planche à pain, as-tu au moins des poils ?» Elle le replie. Elle le replie et le glisse dans sa trousse à stylo. 10 heures, pause. Ça passe lentement aujourd'hui le temps. Mais ça sonne quand même, alors elle prend son cahier et son livre, les glisse dans sa sacoche et sort presque en courant avant tout le monde, chercher dans la rue, dans la cour, son amie. Elle court, et halète, et son souffle est chaud, et une boule se forme dans son ventre et grandit, et elle traverse la cour en faisant par les toilettes un crochet. Elles sont vides. Puis elle court vers le bureau vitré des surveillants. « Bonjour, Lika Kirkel en 5e 3, l'est là aujourd'hui ?»« Lika Kirkel, Lika Kirkel ?» Oui, certainement. En tout cas, elle n'est pas sur ma liste. D'accord, merci. Le bureau de la CPE est ouvert? Non. Madame Leroy est descendue. D'accord, merci. Alors ses baskets convertissent le carrelage en tapis de course. Elle grimpe les 4 étages et court dans les couloirs et personne. Alors elle court encore pour redescendre et là, c'est l'affluence dans la cour. Ça bourdonne et ça crie.
Merci beaucoup. Pour cet extrait. Alors, pour en venir vraiment à ton écriture, alors nos auditeurs n'ont évidemment pas les textes sous les yeux, mais au premier abord, quand on ouvre n'importe lequel de tes livres, enfin il y en a pas, il y en a deux des livres de publiés si j'ai bien compris. Oui. Donc Croche Champ des collèges dont on vient de parler et un autre donc qui est publié aux éditions de l'Entretemps qui date de 2014 et qui s'appelle Duo lorsqu'un oiseau se pose sur une toile blanche et dont on reparlera aussi, mais en tout cas quand on ouvre ces deux livres, on perçoit qu'il y a quelque chose d'instable dans le genre que tu veux leur donner. On a vraiment l'impression que tes textes traversent à la fois la poésie, le roman, le théâtre, le cinéma peut-être aussi dans Croche Champ des collèges avec une manière de créer différents plans. Est-ce que pour toi c'est pour raconter plus librement les choses que tu travailles ainsi ou est-ce que c'est totalement autre chose?
Alors c'est que les mots sont des c'est comme les notes ou de la matière ou comme des couleurs, c'est vraiment des moyens pour dire, exprimer. Alors c'est toujours le projet, les idées, l'histoire qui précède la forme. Alors, pour ces deux textes, c'est vrai que c'est de la prose comme ça, libre, enfin assez, qui semble comme ça assez prendre toute la page blanche, mais en réalité c'est plutôt très construit par rapport à un projet qui précède la forme finale. Donc je me dis pas tiens je vais mélanger le roman, la poésie et le théâtre, mais par exemple pour donner l'exemple de Cross Chant des collèges, c'était la structure en 7 jours correspond à cette chose qu'on est beaucoup à avoir connue, qui est l'emploi du temps sur le carnet de correspondance. Et cette période de l'existence où notre vie est organisée selon un emploi du temps. Donc là, par exemple, à partir du moment où la volonté se situait dans celle de raconter l'histoire de Blake, l'emploi du temps, c'est-à-dire ce découpage en jours, régi par ce rythme des cours qui se succèdent, eux-mêmes entrecoupés par des intermèdes qui sont des sonneries, pour prendre la pause de récréation, me semblait voilà une manière opportune pour raconter l'histoire de Blake et être au plus près. Donc il faut que la forme arrive après la volonté première de raconter une histoire. Là c'était il y avait le harcèlement scolaire, mais c'était plutôt aussi la volonté de raconter de questionner l'institution scolaire et puis plus largement les institutions françaises. Comment leur relation entre elles.
Alors oui, on reviendra sur cet aspect politique de ton œuvre. Pour ce qui j'ai aussi par rapport vraiment aux personnages que tu crées, pour en rester sur les personnages. Donc dans le premier livre que tu as publié, donc aux éditions de l'Entretemps. Du haut, lorsqu'un oiseau se pose sur une toile blanche, entretien post-mortem avec Merce Cunningham et Pina Bausch, il y a l'image qui est utilisée du solo. Solo dans l'idée d'une performance seule. En exergue de ton ouvrage... duo lorsqu'un oiseau se pose sur une toile, tu utilises une citation de Laurence Loupé. donc extrait de la poétique de la danse contemporaine où il est écrit que le solo peut être de manière plus ou moins littérale autobiographique, il peut être récit d'une vie, d'un itinéraire intérieur ou affectif, et donc cette définition pour moi elle caractérise tout ce que j'ai pu lire ou voir de tes textes, autant dans Cross Chant des collèges que dans un autre texte que j'ai pu entendre au cours d'une soirée aux Têtes des Marronniers l'année dernière, qui n'est pas publié, celui-là, qui s'appelle Eleonora Dreams About Billie Holiday's Lies and Lives, avec mon accent anglais très 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 mauvais. Et donc dans tous ces textes, on a vraiment l'impression que tu évoques à chaque fois des parcours en solo, voilà, des itinéraires de personnages, un personnage souvent qui est une figure unique, qui est au centre de tout le récit qui va se construire autour de lui, qui a une voix forte, en même temps fragile, et qui finalement n'a de cesse d'affronter le monde autour de lui, et dans Pardieu, qui se joue en ce moment... dans le festival En Acte, là pour le coup c'est d'autant plus visible puisque on a l'histoire d'un réfugié politique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que le solo fait partie de ton écriture, de la jeunesse de ton écriture?
Alors pareil, je me suis pas dit je veux travailler des solos, à part là pour le coup il y a cette correspondance du fond forme pour les deux solos de danse qui est la forme adéquate, enfin en tout cas celle qui m'avait paru la plus adéquate pour raconter les existences de ces deux maîtres de la danse contemporaine. Mais il me semble que finalement suivre le parcours initiatique d'un personnage, ou en tout cas c'est c'est le plus simple dans la mesure où où on grandit avec des contes, l'histoire, je pense au petit chaperon rouge qui traverse les bois, au petit Pousset, même l'histoire d'Ulysse. La fiction nous propose toujours un héros qu'on va suivre, et quelque part, en fait, ta question me permet de me dire que j'aimerais bien un jour écrire un texte sur un mouvement ou sur un groupe d'idées ou sur et en même temps j'ai réfléchi cet après-midi à cette question du solo et de pourquoi toujours suivre un personnage, mais il me semble aussi que je pensais par exemple à la Révolution française ou à des mouvements qui ont permis parce que ce qui est paradoxal, c'est que dans la fiction on s'attache souvent à un personnage, le fameux héros, alors que finalement les grands renversements historiques sont le fruit de révolutions qui sont des constitutions d'hommes, des grands rassemblements ou parfois un groupuscule d'hommes qui agit ensemble, et en même temps il me semble que spontanément si on devait raconter l'histoire d'un mouvement, ça serait très vite raconter l'histoire d'une idée peut-être, ou d'une grande idée ramifiée à plusieurs autres idées, et ça du coup peut-être que ça serait encore un solo, enfin voilà, et ce qui me fait dire que peut-être qu'un solo c'est un moyen aussi, par le biais que le personnage est peut-être qu'un prétexte pour aborder quelque chose de plus vaste, qui serait aussi des idées, une idée ramifiée à plusieurs autres idées. Et effectivement, ce sont des personnages qui sont confrontés à des obstacles, et en même temps, ils sont complètement interdépendants. Et Léonora, c'est une figure qui se métamorphose, donc on la retrouve aussi dans des personnages qui sont des doubles. On la voit aussi quand elle est enfant, mais aussi à travers des figures masculines. Donc j'ai l'impression que finalement ce que permet le personnage, c'est à la fois d'être transformé et à la fois d'être porteur de quelque chose qui est bien plus grand. Donc le solo, et je crois que le solo c'est ça, le solo de danse, c'est un homme sous la lumière en train de nous présenter une série de gestes, et que cette série de gestes pour moi c'est aussi une idée ramifiée à plein d'autres, enfin en tout cas un tout, et je crois que c'est ça qui m'importe dans un personnage, c'est quand ça forme un tout pour moi. À la fois pour raconter une histoire, Billie Holiday, c'était aussi questionner cette histoire de l'Amérique des années 50, parce que c'est un personnage ancré, qui est historique. Là, Blake, c'est questionner elle est le prétexte à questionner un passage de vie qui se situe dans cette période de 12 à 15 ans, qui est le collège. Cette période pleine de... où, Françoise Dolto parlait du homard en mue, qui est cette période très où on est très peureux à la violence, et où on est très fragile, et en même temps où on a envie de s'émanciper de ses parents, donc où on est plus aussi, on parle moins, donc avec toute cette contradiction de passage entre deux âges. Voilà, donc à chaque fois, je me dis que c'est solo, c'est toujours pour parler d'autre chose.
Et justement, tu parles d'écrire une expérience collective, mais il me semble, peut-être que je me trompe, que tu as participé à un ouvrage sur Nuit debout qui est paru chez L'Entretemps.
Oui.
Et du coup, je ne l'ai pas lu, mais du coup, qu'as-tu écrit sur cette expérience collective que tu as sans doute vécue, sinon tu n'aurais pas écrit dessus.
Alors oui, je me suis rendue place Guichard et j'ai suivi, et là, c'était plutôt... Ça me semblait, enfin, c'était plutôt rendre compte de ce qui se passait, donc c'était des chroniques, et en même temps il y avait la manière dont moi j'abordais chaque jour ces rassemblements, et parfois qui étaient il y avait une joie qui débordait dans le fait de rejoindre, d'être là, d'écouter, et parfois aussi des jours beaucoup plus amers. Et donc, c'est pour ça que tout de suite, ça a été des chroniques, mais des chroniques poétiques, parce que parce que c'était voilà, une entrée subjective dans la place.
Et donc oui, quand on lit tes pièces, quand on entend aussi, on a souvent l'impression vraiment de respirer avec des figures oui itinérantes qui nous sont lointaines, qui ne sont pas saisissables. Voilà, peut-être que tu disais que le personnage était un prétexte. Peut-être qu'on a là quelque chose de l'ordre de l'insaisissable, des personnages qui refusent, on a l'impression que tu écris des personnages qui refusent de souffrir en fait, qui refusent l'image de souffrance que pourrait leur renvoyer leur miroir. Alors moi, je voulais vraiment savoir comment est-ce que tu travaillais ce souffle dans tes pièces, ce que Novarina appelle de manière très belle la danse d'apparition des mots. Comment est-ce qu'on travaille ça?
Alors spontanément, je dirais que le souffle, c'est pas le... Je le place très loin du travail, pour le coup, parce que ce serait plutôt ce qui vient en dernier ressort quand le travail a été fait. Parce que je travaille par accumulation de lecture, de déplacement physique, géographique, par entretien, par rencontre. Et je suis beaucoup dans de l'association d'idées, dans des va-et-vient, je me concentre, puis je me descends, puis je reviens. Et puis petit à petit, c'est pas très élégant, mais je me sens grossir. Et au bout d'un moment, ça déborde, et quand ça doit déborder, c'est à ce moment-là que j'arrive à l'endroit juste, et où vient le commencement. Et quand vient le commencement, c'est... Bah, le souffle peut être là, et en général, quand j'ai fait tout ce travail, c'est que l'obsession était telle que ça valait le coup, donc en tout cas que ça m'était cher. Donc en fait, le travail précède le souffle, vraiment. Et alors, c'était quoi, petite danse
Danse d'apparition des
danse mots. D'apparition, ça pourrait être danse d'apparition, dans la mesure où le souffle, en tout cas ce qui résulte dans le travail final du souffle dont tu parles, ça correspond à un moment de légèreté qui est celui du passage à l'acte. Donc, petite danse, pourquoi pas, pour cette part de légèreté après le labeur.
Et donc, pour en venir plus précisément à Duo, donc tu as évoqué le fait que tu parlais de deux grandes figures de la danse contemporaine. Alors, je crois savoir que tu pratiques la danse, d'après ce que j'ai pu lire. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à eux, d'autant que c'est très intéressant de manière éditoriale, on va dire, puisque ce texte, Duo, lorsqu'un oiseau se pose sur une toile blanche, en fait, est paru dans une collection danse, dans le répertoire danse, une collection qui s'appelle Ligne de corps chez L'Entretemps. Qu'est-ce que tu peux en dire?
Oui. Alors effectivement, je partage totalement. C'était à mon sens assez juste que ça apparaisse dans une collection dédiée à la danse plutôt qu'au théâtre, parce que donc c'est une collection qui est dirigée par Jean-Marc Adolphe, critique de danse très connu, qui a mené un des derniers entretiens avec Pina Bausch d'ailleurs. Et Gérard Mayen lui-même critique de danse, donc ça me semblait avoir du sens. Et ensuite le projet de duo est né d'un rêve, commis alors que j'entrais tout juste à l'ENSAT, et donc à l'ENSAT, une école d'art, une école dédiée au théâtre. Je venais d'arriver dans le département d'écriture, et donc c'était le moment où il me fallait écrire pour entrer en relation avec mes pairs. Et donc j'ai premier entretien à l'ENSAT, je fais part de ce rêve à Enzo Corman. Donc ce rêve, c'était une toile blanche, une toile en vinyle blanche, qui sont les mêmes que celles qu'utilisait Kesselring pour peindre ses grands formats, très très grands formats. Et donc c'était avec des œillets comme ça, Ce sont des sortes de bâches, en fait. Et c'était donc une toile en vinyle blanche tendue au sol. Et il y avait une table avec des clés. Et puis, il y avait deux silhouettes comme ça qui passaient. Et puis, dans l'été, étaient morts à un mois d'intervalle Merce Cunningham et Pina Bausch. Et donc, je partage à Enzo Corman ce rêve. Et il me dit, mais allez-y, écrivez ce rêve. Et donc, j'étais très, très embêtée parce que écrire sur des morts, sur des grandes figures comme ça, c'était plutôt risqué. Et puis là, c'est lui qui m'a partagé cette phrase de Yankelevitch qui me disait que les morts, le fait d'avoir vécu était pour eux leur viatique pour l'éternité. En tout cas, ça les rendait... on pouvait s'en emparer précisément parce qu'ils étaient morts et qu'ils avaient vécu. Et donc là, j'ai commencé tout un travail très physique, je dirais, de à la fois d'appréhension de leurs œuvres, mais aussi de grosses remises en condition physiques. Donc, je me suis remise beaucoup à la danse. Et puis j'ai eu des rencontres aussi avec des histoires. Des histoires des coulisses qui m'ont confortée dans les intuitions, parce que à chaque fois qu'on a une obsession, on voit des liens de partout aussi dans ce qu'on aborde. Et finalement, donc il y avait ce rêve, il y avait la danse qui était présente, depuis un temps dans ma vie, mais là une grande remise en condition physique, et puis surtout la curiosité de les connaître, parce que je m'étais rendu compte que j'étais pleine de leurs œuvres aussi par toutes les généalogies de danseurs qu'ils avaient créées, d'influences, sans vraiment connaître ce qu'ils avaient mis en place, donc avec cette école allemande, l'école américaine, voilà, et derrière il y avait toute une histoire, et donc c'était de remonter la généalogie aussi de leur influence qui a été passionnant, et puis de voir aussi que je crois que j'étais dans une que je me suis placée, les faire revivre, c'était une manière de pouvoir parler avec eux, et donc de leur demander des conseils, de leur poser des questions. Enfin, c'était une manière de créer un terrain très privilégié pour entrer en contact avec eux. Donc, ça, c'était le point de départ de ces deux solos.
Alors, je te propose de faire une première pause musicale, Julie,
oui.
pour souffler un peu. Donc, on va écouter Lemon, c'est ça ?
Oui, Lemon. Donc, c'est un album de Bachar Markhalifeh, qui est une chanson qu'il a coécrite avec sa maman, et qui est un hommage qui part de vers d'un poète égyptien, et c'est une musique dansante, qui est un hommage à la musique populaire libanaise.
يا ليل العمر لما حبيبي زار يميني
nous sommes de retour. Nous sommes toujours avec Julie sur dans notre studio de Transistor, avec Marie à la régie, que je n'ai pas mentionné en début d'émission. Alors, pour continuer un peu ce qu'on était en train de dire, dans ce que j'ai pu voir lire de toi, je trouve qu'il y a une forme de douceur amère et une espèce vraiment d'ironie poétique constante, une manière de mettre à distance les choses et de raconter paisiblement quelque chose qui est quand même, enfin, des choses qui sont terribles. Enfin, je trouve qu'il y a une manière paisible de raconter, de manière tranquille, voilà, de raconter des choses qui sont difficiles, peut-être, enfin, qui sont difficiles à raconter, qui sont des sujets graves, le harcèlement scolaire, comme pour Crochant des collèges, ou pour Pardieu, par exemple, que j'ai pu voir hier soir, le contexte politique actuel des réfugiés politiques. Et voilà, pour ce qui est du personnage de Blake, donc, et la collégienne héroïne de ton texte Cross Champ des collèges, je me demandais si c'était la forme véritablement romanesque que tu adoptes qui opérait cette distanciation, et si surtout c'était un choix délibéré de ta part de décrire véritablement les mécanismes de violence que subit Blake quand elle est harcelée, mais de ne pas vraiment les rendre opératoires dans ton texte. Alors sûrement que quand on voit le texte jouer, c'est sûrement autrement, justement, c'est un autre travail. Mais en tout cas, quand on lit le texte, on a vraiment l'impression que cette violence est mise à distance. Qu'est-ce que tu penses de cette impression ? Est-ce que c'est totalement...
Pareil, comme le genre ne précède pas le travail littéraire, c'est plutôt un choix délibéré qui part de mon expérience de spectatrice, en ce que j'ai horreur d'être prise en otage quand je suis au théâtre, ou d'être dans une forme de tétanie par rapport à des scènes de violence qui ne font que reproduire ce qui a lieu en plus grand et en plus grave dans le réel, et en même temps sans... Enfin, ce que j'appelle du théâtre de constat. Et puis, en même temps, j'ai été adolescente très, très passionnée par la tragédie grecque, et en même temps, je suis dans une... dans une méfiance terrible par rapport à ce genre, par exemple, en ce que je trouve que la catharsis qu'amène en fait ces textes, finalement ne me laisse pas une place pour penser. Et comme ce que j'aime en tant que spectatrice, encore une fois, c'est avoir de l'espace, mais aussi pouvoir moi-même de mon côté faire des associations d'idées, avoir de l'espace pour réfléchir, avoir aussi le temps de méditer un mot, de pouvoir avoir une opinion par rapport à ce qui est dit. J'ai l'impression que la violence, quand je veux en parler, en tout cas, j'essaye de la placer à côté, en tout cas de laisser de la marge pour que le spectateur ait une vision d'ensemble, qu'il se place par rapport à ce qui lui est donné à voir, ou dans le cas de, parce que je dis ça et j'ai bien conscience par exemple que dans Cross Champ des collèges, c'est un texte qui va très très vite, c'est une course, le rythme du texte c'est ça, et dans le spectacle c'est ça aussi, donc ça va très vite et on n'a pas forcément le temps non plus d'être, c'est une autre forme de tétanie, et en même temps il me semble que ça procède autrement pour ce texte, par le biais du détail. Le détail c'est une manière de mettre à distance, dans la mesure où là je vais chercher des... ça fait appel à l'enfance, potentiellement à l'enfance de chacun, ou à du souvenir qui est à la fois très précis et en même temps qui me semble qu'il peut parler ou aller plonger dans l'intimité de chacun, et où là du coup dans les allers-retours que ça peut faire entre celui qui est assis dans la salle et le plateau, Il me semble que ça libère un espace de liberté à celui qui est spectateur et du coup qui peut faire des liens, qui a de l'espace pour penser et qui est pas dans une qui est pas subjugué par la violence ou qui est pas pris en otage et ça met vraiment c'est très important pour moi et ça relève presque d'une responsabilité parce que et ça rejoint aussi la précision qui fait que si c'est pas absolument précis la parole n'est pas légitime. En tout cas c'est quelque chose qui est la base pour moi, en tout cas dans la démarche théâtrale qui est toujours une prise de parole publique. Donc voilà, la manière de m'emparer de la violence, elle se fait par ce biais, ou en tout cas par cette réflexion. Et je me place beaucoup moins en tant que metteur en scène qu'en tant que spectatrice quand j'écris.
Et oui, donc justement, pour voir un exemple de très politique, justement, de tout ce que tu viens de nous expliquer, quand on lit Crosse Chant des collèges, par exemple, à certains moments, il est évoqué un campement qui se fait près de la mairie sur une place, et donc oui, libre aux spectateurs d'associer effectivement, ou aux lecteurs de savoir qui sont ces gens qui campent. Entre guillemets, je ne sais plus quels sont les termes exacts, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une manière pour toi d'intégrer le politique, du coup, à ton œuvre.
Alors oui, parce que de plus en plus, j'ai l'impression que j'ai envie de faire du théâtre local, dans la mesure où je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à sa métropole ou à sa campagne, en tout cas là où on est, et qu'on zoome sur une histoire, sur un point donné, émerge, ou qu'on procède par un travail d'enquête, on peut dire ça comme ça aussi, émerge une série de conflits, une série de contradictions, une série de discours, des institutions qui entrent en jeu, des classes sociales différentes aussi. Et à ce moment-là, en fait, on crée un rhizome. En fait, on crée un rhizome à partir d'un point sur Google Maps. Voilà, c'était très clair sur Cross, Blake. J'avais fait la trajectoire que fait Blake de la gare au lycée Colette, qui a inspiré le lycée K de Saint-Priest. Mais ensuite, pour être extrêmement précis, il fallait que j'aie. Enfin voilà, c'est le nombre de kilomètres que fait Blake et j'avais les points sur un plan Google Maps. Enfin, c'est-à-dire d'être toujours au ras du bitume pour ne pas se placer de. Enfin, on ne peut pas se placer de n'importe où. Surtout quand on veut être en phase. Là, en parlant d'une collégienne, je pouvais pas. J'étais pas du haut de mon hélicoptère. J'étais du haut de. Enfin, j'étais aussi dans la rue. Et sur la place qui était traversée, comme c'était une place publique où il y a un marché, c'était aussi potentiellement une place qui pouvait accueillir des tentes igloo. Et comme on était en pleine, voilà, comme il y avait les réfugiés qui arrivaient par milliers comme ça en France, elle les apercevait depuis son regard. Donc à partir du moment où on est au ras de ce qu'on convoque, il me semble que a fortiori il y a le politique est invité sur la scène. C'est une évidence, en tout cas.
Le politique est peut-être aussi le lyrique, et on en vient à la poésie finalement dans tout ça. Alors il y a vraiment quelque chose de poétique et dans tes pièces. Enfin, quelle œuvre ne l'est pas en même temps, c'est voilà. Mais en tout cas, dans Cross Chant des collèges, tu intitules véritablement cette pièce avec le sous-titre Chant.
Oui.
Alors chant, c'est bien le chant où on chante. C'est pas le chant de terre. Je le dis parce que, enfin, pour ceux qui
n'ont
pas le livre sous les yeux, chant des collèges, ça pourrait aussi être un titre. Hein. Enfin, le chant
territoire.
Et donc, est-ce que c'est une manière pour toi, finalement, de passer de ce lyrisme qu'induit le chant, inévitablement, dans notre littérature, à une forme de lucidité? le passage de « je dis que je souffre et je me plains » à « j'affirme qui je suis ». Et d'ailleurs, dans Croche-Chante des collèges, on retrouve cette phrase à plusieurs reprises, je crois, d'une poétesse québécoise, je ne me souviens plus son nom, qui dit « elle n'a d'autre raison d'exister que sa propre existence ».
Oui, c'est France Théoret. C'est une poétesse québécoise, féministe. Effectivement, alors après, le lyrisme, c'est, je l'associe au souffle que tu évoquais, dans la mesure où... où il vient après le travail, donc il est complètement, comme j'écris avec mes évidences et mon corps, ça vient après après avoir fait enfler le travail de recherche, le travail de lecture, le travail d'enquête, le travail de rencontre. Donc le lyrisme, il surgit du débordement de tout ça. Alors il est pas volontariste. Et c'est vrai qu'on l'associe, mais peut-être que c'est vrai qu'il y a cette idée aussi dans le travail d'écriture de me soumettre à l'expérience des figures que je tente d'approcher. Donc en cela, je travaille au corps aussi ces personnages, et au moment où j'entre en écriture, il y a vraiment quelque chose de très tendu et de très physique. Donc je crois que le lyrisme, ça vient là, c'est dans tout ça en fait, c'est dans le souffle, et puis ensuite après il y a peut-être des raisons plus biographiques, dans la mesure où très jeune enfant je faisais partie de chœurs. Donc je chantais avec d'autres enfants, et j'ai un souvenir très fort de la puissance de chanter ensemble. Donc ça, c'est très très sensible encore. Et puis ensuite, parallèlement, il y avait Prévert. Donc peut-être que c'est l'addition aussi des poèmes de Prévert dans son immense simplicité, et ce plaisir de chanter à plusieurs. Qui voilà, d'où vient peut-être ce lyrisme dont on me fait part souvent.
Alors, j'aimerais qu'on évoque une autre dimension de ton œuvre, c'est donc le travail doctoral que tu poursuis actuellement sur le thème qui va suivre, que je vais énoncer. Des voix pour l'égalité, modèles et contre-modèles d'autrices dramatiques aux tribunes de Paris 1789-1918. Alors, tu vas pas nous faire toute ta thèse, on peut faire le défi, la thèse en 360 secondes, je crois. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, ce travail de thèse, il a émergé suite à une série de rencontres. Puis après, pour des raisons aussi, une série de faits plutôt personnels, et qui naît d'un constat assez simple, que finalement, toute mon éducation théâtrale s'était faite beaucoup en suivant des maîtres des hommes, en fait, des professeurs, et puis des références théâtrales qui étaient plutôt des auteurs, et que finalement j'avais peu d'exemples passé le XXe siècle donc d'autrices dramatiques, donc de femmes qui avaient écrit pour le théâtre. Et puis quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que les noms qui ressortaient, c'était souvent des femmes qui avaient la particularité, enfin en tout cas ce qu'elles semblaient partager toutes, c'était leur velléité à vouloir s'engager à prendre la parole dans la cité, donc à être plutôt être ce qu'on appelle des femmes politiques, alors qu'elles n'en avaient pas le droit. Et donc ce qui m'intéressait, c'était comment tout d'un coup la scène de théâtre devenait un moyen, une ruse pour prendre un pouvoir qu'elle n'avait pas. Donc ça m'a fait traverser des œuvres inconnues, découvrir des poétesses et des autrices dramatiques que je ne connaissais pas, et puis ça m'a permis de faire des liens aussi ça m'a remise à un endroit de ma nécessité, à écrire pour la scène de théâtre, dans à la fois dans l'immense liberté et puis dans l'immense pouvoir de subversion, dans l'immense pouvoir d'engagement que pouvait ce média. Et aussi parce que le détour par le 19e siècle, c'était que le théâtre, tout d'un coup, c'était le média de masse. Donc avant la télévision, avant la radio, exposer ses idées devant le plus grand nombre, ça pouvait passer par le théâtre, d'où la censure, d'où... Donc ça m'a repositionné sur l'immense pouvoir, bien qu'actuellement, on sait très bien que c'est 12% de la population qui se rend au théâtre, mais en même temps, pour avoir beaucoup travaillé ces deux dernières années dans des établissements scolaires, aussi en prison, le théâtre peut se déplacer, il y a toutes les missions locales auxquelles sont soumises très justement les centres nationaux dramatiques, qui permettent de faire ce travail et donc de relier le territoire. Et donc quand même ce travail de pouvoir relier des habitants dans les territoires par le biais de la fiction, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est merveilleux si on l'utilise, voilà, et que c'est, enfin, il faut l'utiliser pour amener au centre les questions urgentes. Donc voilà, je dirais que ce travail doctoral, ça m'a replacé aussi à un endroit de nécessité dans le travail de pratique théâtrale.
Et donc oui, comme le titre de ta thèse, tu parles de cette notion de voix qui n'est plus, enfin qui s'éloigne un peu de la notion de personnage, justement, puisque des voix peuvent être aussi parfois silencieuses. Et donc je me demandais si cette manière de coordonner des voix, finalement, dans tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'était une manière d'être absente de tes textes, enfin charnellement, en tant que dramaturge, alors qu'on observe que beaucoup de choses qui se font sur les scènes actuellement, c'est justement de mettre en avant la personnalité de l'auteur. Alors on pense par exemple à quelque chose qu'aux antipodes de ce que tu écris, mais par exemple Angelica Lidl, qui fait carrément des textes sur elle. Voilà, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça?
Alors, c'est intéressant de parler d'Angelica Lidl parce que elle est dans une démarche autobiographique, enfin autofictionnelle et performative. Et le théâtre, en tout cas tel qu'il m'attire, c'est du théâtre qui me déplace et qui me permet de, qui vient nourrir une curiosité de découvrir ce que je ne connais pas et en même temps de tirer les fils de liens comme ça très. Enfin, de voir ce qui me relie justement à mon endroit, je me replace en fait par rapport au sujet que je souhaite aborder, et en même temps je procède un travail de recherche parce que j'ai l'impression que le théâtre, c'est en tout cas moi, ça me permet de mettre en pratique un art de la rencontre, donc ça, tant au niveau du travail premier de préparatoire, je dirais, à l'écriture, que ce qui va suivre. C'est-à-dire que l'amitié, par exemple, pour moi, est indissociable de l'expérience théâtrale. J'écris un texte, là, par Dieu, je l'ai écrit pour Julie Guichard, la metteur en scène, avec qui on avait partagé des moments, avec qui on avait parlé de théâtre en Chine, précisément dans une grande ville comme ça où on parlait de notre volonté d'extrême simplicité, de jeu, de pouvoir faire théâtre de tout, d'un partage de désir. Et puis Cross Chant des collèges, c'était pour Lucie Rébéré, qui est une personne avec qui on a grandi dans la même rue, dans le même quartier, on se connaît depuis pratiquement 30 ans. et qui est quelqu'un à qui, pour qui j'écris. Et donc le théâtre, comme les poèmes, pour moi ce sont des cadeaux, et j'écris dans un désir de donner ensuite mon travail pour qu'ensuite il le travaille avec des comédiens. Donc je crois qu'il y a ce travail de relais qui m'est très cher, et que moi-même je me fais le relais aussi de voix qui ne sont pas les miennes et qui n'ont pas voix précisément. En tout cas, c'est ce qui m'attire. Donc, je trouve que se situer, enfin écrire pour la scène, pour moi c'est ça, c'est se passer, c'est se situer entre deux, dans un jeu de relais. Donc j'écris, enfin j'écris pour quelqu'un, j'écris. Donc c'est sûr que là moi je suis là, je suis présente partout, mais en maîtrise, de mon artisanat. Et pas en... Enfin, je crois que je m'ennuierais trop, sinon. Avec moi-même, ça serait... Enfin, bon, ça serait terrible. Ça serait mortifère, je pense.
Et donc, justement, tu parles de ces relais qui sont très importants pour toi. Alors, on va parler de ça à présent. Alors, d'abord, Lucie Ribéry, tu as fondé une compagnie avec elle en 2015
En 2014.
2014. Est-ce que tu peux nous en dire... Nous en dire quelques mots.
Oui.
S'il te plaît.
Ok. Alors, donc en 2014, on a créé notre compagnie parce que ça, pareil, c'était. Enfin, pareil. Disons que ça répondait à une nécessité parce qu'on avait. On sentait qu'on allait poursuivre. Donc, il fallait. On voulait se créer un espace à nous deux. Et donc, on a. Il y avait ensemble une. En 2008, elle avait mis en scène mon premier texte qui s'appelait Vals. Vals con algunas naranjas y un poco de agua. Et puis ensuite, il y avait un autre texte. C'est elle qui m'a poussée à présenter Duo au CNT. Et puis ensuite, il y a eu Du sang sur les roses qui était une réécriture de Pantésilée de Heinrich von Kleist. Qui partait d'une... On interrogeait le féminisme. Ensuite, il y a eu cette commande de la Comédie de Valence, donc pour les collèges, de Cross, Chant des collèges. Et puis là, on va créer un nouveau spectacle pour Ambivalence 2018, qui va s'appeler Atomic Man, Petite Danse de la Mort, ou Atomic Man, Chant d'Amour. C'est encore en travail. Et donc, comme on allait poursuivre, c'était opportun de créer un espace pour ce duo voilà, qui est lié à notre amitié.
Ambivalence, c'est à Valence.
Ambivalence, c'est à Valence.
Oui, mais qu'on précise pour nos auditeurs, parce que
voilà,
tout le monde n'est pas de la région Rhône-Alpes.
Oui, oui, oui. Et c'est le festival qui se passe dans la ville, qui prend d'assaut, qui ouvre plusieurs théâtres et même des jardins, je crois. Il y a des déambulations dans la ville et c'est en général vers mai-juin. Et donc là, c'est sur le Ambivalence 2018. Donc on a un peu de temps. Donc la maison, c'est venu, donc c'est 2014, et puis là on sera dans la création de notre deuxième spectacle officiellement sous le nom de la maison, donc qui est une compagnie qu'on a créée à Lyon, et on est toutes les deux originaires d'ici, donc ça avait du sens.
Et donc tu travailles aussi en tant que dramaturge, pas forcément au sens où tu écris les textes, d'après ce que j'ai pu comprendre,
ouais.
Auprès de Mathieu Berthelet par exemple, entre autres sans doute. C'est important pour toi aussi de pouvoir accompagner des créations où il n'y a que l'écriture qui vraiment
Alors avec le travail doctoral j'ai dû faire des choix, mais ça a été très important. Et puis le travail de Mathieu Berthelet est un travail que voilà qui me pour lequel j'avais beaucoup d'affection, enfin dans le sens que j'y voyais beaucoup de sens, beaucoup d'intelligence, et puis surtout que c'était des paris. Là, c'était, j'ai travaillé sur deux spectacles, donc je ne suis plus actuellement dramaturge de Mathieu Berthollet, mais je l'ai accompagné sur deux textes de Ramu, ou Ramuse, il y en a qui disent Ramuse, et qui était, il ne faisait aucune coupe, il n'y avait pas d'adaptation, et il y avait un engagement chorégraphié du texte avec des comédiens qui connaissaient l'œuvre dans son intégralité. Donc ce sont des pièces chorales qui prennent le plateau sur une œuvre voilà, que moi je trouve d'une exigence littéraire considérable, et c'est une écriture que j'affectionne, que je trouve très dense, et puis qui est dans cette justement qui est très à son endroit parce qu'elle est localisée et qu'elle part elle part de son endroit de petit homme sur la terre, et c'est une poésie qui me touche. Donc ça a été un privilège d'accompagner ce travail, ces deux pièces de Mathieu Berthollet, donc qui étaient d'Herborance et Berthollet.
Alors une dernière question subsidiaire, on va dire, sur voilà, la place de l'écrivain, justement. Est-ce que pour toi l'écrivain serait plus alchimiste au sens rabaldien du terme, ou s'il pourrait être davantage chimiste, comme l'entendait Maeterlinck lorsqu'il écrivait cette très belle image dans le Trésor des Humbles, où il disait « Un chimiste laisse tomber quelques gouttes mystérieuses dans un vase qui ne semble contenir que de l'eau claire, et aussitôt un monde de cristaux s'élève jusque au bord et nous révèle ce qu'il y avait en suspens dans ce vase où nos yeux incomplets n'avaient rien aperçu. » Alors, est-ce que tu es plutôt chimiste ou alchimiste ?
Alors, je pense que si l'alchimie, c'est le pouvoir de faire se transformer ou muter les éléments qu'on a sous la main, et que être chimiste, c'est faire apparaître ce qu'on ne voit pas ou dire l'indicible, je dirais que je suis les deux. Je tends vers les deux, surtout. Voilà.
Alors, on se quitte sur une chanson. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors, Superman, c'est une chanson de Laurie Anderson qui est actuellement mon hymne. mon hymne, parce que je travaille actuellement sur... j'enquête sur Daesh, l'organisation islamiste. Et cette chanson parle d'une mère qui demande quand est-ce que va revenir l'enfant. Et puis, ça remonte aux années 80. Et donc, pour des raisons historiques, et par ce décalage, par le pouvoir de subversion, je trouve qu'au final, que propose cette chanson, c'est une chanson qui m'accompagne actuellement dans mon travail pour Atomic Man, Petite Danse de la Mort.
Bien, merci d'avoir accepté notre invitation, Julie. Et donc, tous nos auditeurs pourront retrouver ce dont on a parlé dans les liens qui seront en description avec l'émission. Merci beaucoup, Julie. Et puis, bon courage pour la suite.
Merci à toi.
Oh, Superman. Oh, John. The sound of the tone. Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you. Said, this is the hand.